Quand nous entendons « vas-y, je te laisse faire les comptes », la plupart d'entre nous ont une tendance à avoir le poil qui s'hérisse et commencent à se mettre en PLS. Pour certains, les comptes n'ont rien à voir avec la partie trésorerie d'une association, le bilan de fin d'année ou encore la succession de papy. Johan est un de ceux-là. Il aime compter. 3, 2, 1, partez, l'histoire peut commencer. Commencer par « il était une fois » et finir par « ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants ». Ou « vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux », va-t-on savoir. Bref, aujourd'hui nous rencontrons Johan, Johan et le loup, le conte comme premier moment d'éloquence. Bonjour Johan, on se rencontre aujourd'hui pour cet épisode de Café Éloquence, parler d'éloquence autour d'un café entre amis. Tu m'as dit que tu avais envie potentiellement de parler de conte, alors j'imagine que tu parles pas de compte
en banque, non. J'aime beaucoup Excel, j'aime beaucoup les tableurs, d'ailleurs, c'est une passion dans ma vie, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui, effectivement.
Ok, bah vas-y, explique-moi un peu c'est quoi le thème d'aujourd'hui.
Eh bien, je me suis rendu compte de l'importance du compte pour l'éloquence. De plus en plus pour les collégiens, pour les lycéens, pour les enfants. Quand je travaillais sur le volume, travaillais sur les temps de silence, travaillais sur l'investissement du corps, il faut réussir à leur expliquer et leur montrer à quel point c'est important. Et il y a beaucoup d'exercices d'improvisation, de théâtre qui le montrent, mais rien n'a marché aussi bien que le conte. Parce que le conte, on a tous déjà eu des contes quand on était petits, par notre mère, par notre père, par nos grands-parents, qui ont été racontés. Et un conte, souvent, il y a une morale, ou il y a une logique, il y a des valeurs qui sont expliquées dans le conte. Et souvent, tous, on aime bien. On revient des enfants, qu'on écoute un conte, on plonge dedans, et on aime écouter et entendre ce que va devenir le héros, au bout du compte. Au bout du compte, d'ailleurs. Voilà. Et le conte, je m'en sers de plus en plus pour demander aux enfants de le lire plusieurs fois, se l'approprier, et ensuite, nous le conter. Comme si nous étions tous des enfants de 6 ans, devant eux, bouche bée, et je leur dis, intéressez-nous, faites tout pour qu'on soit plongé dans l'histoire. Ils ont le droit de changer les lumières, mettre de la musique, la voix aussi, peut-être une fois, dans une grande forêt, mettre toutes les formes qu'il faut, pour à tout prix nous intéresser. Et je vois que ça marche tout le temps, parce que tous, dans leur regard, redeviennent des petits-enfants et aiment bien ce côté immersion dans l'histoire. Donc d'une part l'articulation, ils voient l'importance de l'articulation, l'intensité, et surtout les temps de silence.
Ok, et le conte pour toi c'est un truc vraiment essentiellement lié à l'enfance, ou parce que là tu nous parles que de l'enfant, après c'est peut-être aussi un public que tu as plutôt l'habitude d'avoir par rapport à d'autres publics.
Eh bien, c'est une bonne question. Ça marche avec tout le monde. D'ailleurs, récemment, avec Eloquentia, sur le corps et la voix, on a travaillé sur le conte, d'ailleurs. Ils étaient par binôme, un conte par binôme, et ils devaient, tous les deux, choisir comment le conter à deux. Souvent, l'un d'eux compte pendant que l'autre mime ou exprime, montre ce qui se passe dans le conte. Donc c'est souvent assez amusant, assez rigolo, pour déjà relaxer tout le monde. On se rend compte que c'est assez amusant, ça peut être fun, et aussi, ça peut être assez immersif, le conte. Mais beaucoup l'enfance, parce que j'ai remarqué, on a tous la même réaction dans un conte. Quand une personne improvise un conte, on part souvent sur des fables. On part souvent sur des animaux, sur des légumes, sur des éléments qui sont très liés à la fontaine. C'est un peu un classique. Un conte, souvent, on parle de carottes, on parle de lutins, on parle de trésors, on parle de pirates. Et naturellement, on va sur des dimensions plus enfantines. Parce qu'on a envie, des fois, de retrouver ce petit côté qui nous faisait un peu rêver étant petit, quoi. Ces contes avec beaucoup de fantastique, à la Peter Pan, un peu, on était dedans, et on aime, le temps d'un instant, replonger dedans. Et je vois souvent dans des adultes, dans des chefs d'entreprise, des cadres d'entreprise, ils aiment quand même revenir un peu là-dessus.
J'y connais pas grand-chose en contes, mais y a aussi des contes pour adultes, j'imagine.
Tout à fait.
En tête, j'ai Nasreddin, les contes de Nasreddin, moi j'ai raconté ces histoires, ça te dit rien?
Pas du tout.
On s'en fout alors. Mais donc, t'as des idées de contes comme ça, connus pour adultes
Contes pour adultes, là tout de suite, ceux que j'utilise sont des contes africains, parce qu'il y a une dimension morale, mais une morale qui n'est pas forcément toujours pour les enfants. Et la morale par rapport à l'honnêteté, par rapport à la franchise, par rapport au respect de l'autre. Et pour des primaires, par exemple, j'ai remarqué souvent la logique ou la morale n'est pas forcément comprise. Là, un public adulte comprend très bien. C'est comme des animaux qui sont utilisés, mais la logique et la pensée va plus loin que des valeurs pour enfants. Donc je mets des contes pour adultes. Sincèrement, ça dépend comment on les prend. J'ai eu des contes de Noël là, que j'ai utilisés, qui sont pourtant très enfantins, mais qu'on raconte avec une voix, avec un timbre de voix, avec une envie différente, une voix assez portée, assez claire, on peut le rendre très conte pour adultes. Parce qu'un conte, il faut le savoir, et là où c'est hyper intéressant, à l'époque, le conte vient de l'enseignement qui date depuis extrêmement longtemps, où il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas d'écriture, c'était donné par la parole. Et les contes, je pense que ça fait écho en nous, à nos origines. À l'époque, nos grands-parents, il y a extrêmement longtemps, donnaient tous les savoirs, la technique, par le conte, par les histoires à leurs enfants. Et c'était l'unique manière de pouvoir transmettre un savoir. Et les contes sont restés par cela, et je suis convaincu que les contes ont encore une influence sur nous grâce à cela. On a encore en nous, c'est ancré en nous, l'importance de la transmission orale du savoir et des valeurs.
J'avais vu ce truc un peu dans le conte où quelqu'un m'expliquait, il défendait le fait qu'un conte, ça se lit pas. Genre tu viens pas prendre un bouquin et puis choisir une histoire qui a l'air de te parler et puis venir la lire à un auditoire, mais non, tu prenais une histoire, tu l'assimilais comme tu voulais, comme tu pouvais, et ensuite tu venais la conter sans la lire, juste avec tes mots à toi, ta forme à toi, etc.
Tu sais pourquoi c'est autant demandé pour un conte particulièrement, le fait de ne pas lire une histoire?
Je sais pas, le fait d'être en connexion avec les gens, les regarder quand tu parles, des choses
c'est
comme ça.
Parce que même si un bon orateur a appris à ne pas trop lire une histoire, souvent le fait de revenir sur le livre, eh bien on coupe ce lien, on coupe cette interaction avec le public, et donc on casse l'immersion du public. Et donc le fait d'avoir un conte, on est constamment dans le regard des gens quand on leur parle, quand on parle du loup qui se rapproche, qu'on est vraiment connecté à eux, on garde l'intensité, on garde l'univers magique. La fibulation reste présente grâce à cela. Et donc je rejoins pleinement, c'est qu'un conte, on peut lire deux, trois fois, même si les mots changent, c'est pas très grave. Au moins, on garde l'intensité, on garde vraiment la connexion aux personnes. C'est primordial.
Ouais. J'aimais bien cette idée aussi, du fait de te l'approprier, ce conte, du coup, tu le redonnes pas comme, exactement comme il est. C'est pas une recette avec pile 200 grammes de ceci, 300 grammes de cela, mais bah, tu te rappelles qu'il y a telle et telle chose dedans, plus ou moins, et puis tu le donnes un peu à ta façon. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un conte il est re-raconté, bah en fait c'est un nouveau conte. J'aimais bien cette idée dans le conte que peut-être tu vas venir voir un conteur, il va te conter deux fois la même histoire, mais en fait ça va être deux fois une histoire différente parce que bah ouais, il va pas forcément en parler pareillement quoi.
C'est dans ce sens-là que c'est un très bon exercice, surtout aussi pour les collégiens ou lycéens qui ont besoin de se concentrer en cours avant un oral. Les professeurs des écoles ont une consigne souvent pour travailler sur la concentration, c'est au début d'un cours, demande à un élève de compter le cours précédent, expliquer ce qui s'est passé durant le cours précédent. C'est pas juste dire pourquoi Napoléon a perdu, cite-moi des dates, c'est plutôt dire bah, raconte-moi le cours dernier. Il va citer le retard de Kevin qui arrive en retard, il va citer la fenêtre qui a claqué, il va citer aussi eh bien, un moment où le prof a parlé de ça et qu'on était content. Ça sera un mélange d'éléments très concrets, d'éléments de cours. Et assez bizarrement, les élèves vont se rappeler de plein d'éléments du cours sans pour autant qu'on les ait comptés. Parce qu'ils vont se rappeler de l'instant, et l'instant va rappeler la voix et les paroles utilisées. Et donc ça l'aide aussi, eux, à devoir parler distinctement, articuler, parler avec du ton, avec de l'envie de partager cela. Et c'est pour ça que le conte, je pense, a vraiment de multiples avantages. Et surtout en éloquence, quand je dis conte, très souvent, les personnes ont en tête « Ah, du conte, c'est pour les petits ». Beaucoup d'adultes, souvent, on dit maintenant, on travaille le conte. Il n'y a pas forcément au départ l'intérêt pour eux. Un conte, pourquoi travailler le conte pour moi? Je n'ai pas l'intérêt. Et quand je leur montre, et qu'on a juste conté une histoire basique qui dure 5 phrases, 5 lignes, devant tout le monde, ils voient même qu'ils ne sont pas intéressants. Et quand ils se mettent vraiment dans la forme, là, ça devient intéressant, et là, ça devient vraiment immersif et prenant.
Yes. Donc, si tu dois donner des conseils à des gens qui voudraient conter, genre qui se disent ah, demain j'aimerais bien venir conter une histoire à ma famille, à mon petit frère, à mes parents, à un pote, enfin j'en sais rien, à ma copine, ok, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil?
Alors premier conseil, il y a un petit jeu qui est très amusant à essayer, il s'appelle le menteur-menteur. Faites ça avec un collègue de travail à la pause café, avec votre ami, avec un pote, c'est très simple. Vous racontez une histoire qui vous est vraiment arrivée ou pas du tout, et à la fin il va voter si pour lui c'est vrai ou c'est faux. Comme ça, on travaille déjà le côté envie de convaincre l'autre, envie vraiment qu'il croit notre histoire. Soit c'est faux, on veut qu'il pense que c'est vrai, et inversement. Travailler sur la conviction et l'envie de vraiment convaincre l'autre.
Attends, et inversement, ça peut être aussi, on veut lui conter un truc, on lui fait croire que c'est vrai Alors que c'est faux, mais ça peut être aussi on lui fait croire que c'est faux alors que c'est vrai.
Exactement.
Mmh, okay.
Déjà ça, et au fur et à mesure qu'on acquiert un talent de, comment dire, un talent pour convaincre l'autre, eh bien là, on peut arriver sur le conte. Parce que le conte, finalement, c'est quoi? Il faut convaincre la personne de venir dans l'histoire avec nous. Il faut que par le regard, par le ton, il ait envie de venir avec nous. Et un conte, c'est tout sauf une envie de conter normalement une histoire comme cela. Il faut vraiment être à fond dedans, quitte à être un peu dans la surenchère, avec des gestes, avec le ton, avec le regard. Et pour cela, il faut avoir vraiment envie de convaincre l'autre. Donc d'abord des mensonges ou des vérités pour avoir ce petit jeu. C'est souvent, je vous assure, assez amusant. Quand vous essayez de faire croire que c'est vrai alors que c'est faux, on adore ça tous, c'est très amusant. Et donc après, quand vous voyez que ça marche, que ça prend, là enfin, vous prenez un conte, vous lisez 2-3 fois, c'est suffisant, et après, vous le recontez. Ce ne sera pas alors, les mêmes
ça,
mots.
C'est un deuxième exercice.
C'est
premier
ça.
Exercice, donc on l'appelle comment ce premier exercice?
J'appelle le menteur-menteur.
Menteur-menteur, ok. Et ce deuxième exercice?
Eh bien, c'est la lecture, puis l'appropriation.
Okay.
C'est je lis 3 fois un conte, n'importe quoi. Même un conte, j'ai des contes pour les enfants de Noël. C'est extrêmement niais, on pourrait dire. C'est très amusant. Et on le compte, pourquoi pas, avec une voix très sérieuse. Il y a un conte, c'était Petit Lapin et Noël.
Attends, si t'as un conte en tête, tu le gardes, on finira avec ça tout à l'heure.
Très bien.
Petit
donc,
lapin.
C'est ça le but.
Petit
c'est
Lapin Noël.
Petit Lapin et Noël.
Okay.
Et c'est
amusant
si vous écoutez
tu
un conte qui est très très mignon, mais avec une voix extrêmement caverneuse.
Okay.
Très
on se le fait après. On se le fait après. Ok, deux exercices, un troisième. T'auras un troisième.
Un troisième, je dirais le mime. On tombe dans un élément plus complexe, c'est compter que par le mime. Donc là, très souvent, le conte, on se base que sur la voix. C'est d'ailleurs souvent un excellent moyen. Dans un conte, il y a beaucoup de corps. Et souvent, un conteur débutant mise tout sur la voix et peu sur le corps. Mmh. Alors que le corps, il faut être habité à avoir le regard, avoir le corps, avoir les gestes pour donner envie et encore plus immerger le public. Donc, troisième exercice, eh bien, on ne parle plus juste par la lumière, par de l'ombre, par des gestes. On doit immerger aussi et faire comprendre à l'auditoire, notre conte. Encore mieux, ça peut être le même conte qu'on a conté précédemment, sauf qu'avec des gestes.
Ok, ok. C'est vrai que les soirées contes que j'ai pu faire, je me rappelle que les conteurs avaient une scénographie qui était très travaillée. Par rapport à d'autres choses où la scénographie est vraiment minimale, voire inexistante, dans l'éloquence, on voit ce que c'est, hein, c'est un costume, et puis à la limite, un petit porte-document, et c'est tout. Les gens venaient avec des lumières, avec un chapeau, les gens ne voient pas, mais un peu tenus, un peu, tu vois, comme s'ils étaient un peu courbés sur eux-mêmes, une sorte de vieille cape. Et puis voilà, ils te mettaient dans une ambiance, ils n'avaient pas commencé à parler, que déjà, tu sentais qu'il y avait du fantastique ou de l'incroyable qui allait se passer. Donc je trouve qu'il y a ce truc-là dans le conte plus, peut-être que dans d'autres arts oratoires, c'est cette dimension de la mise en scène
du théâtre,
du soi. Ouais, il y a plus
ça
de
reste du théâtre, vraiment. Je me rappelle récemment le parc aux loups en Creuse, c'est un parc avec des loups dedans, et il y a souvent des contes, des soirées contes en pleine nuit où on marche autour du parc aux loups, des loups marchent à côté de nous en pleine nuit avec les hurlements des loups, et on raconte des histoires, des légendes creusoises qu'on marche autour, et des groupes entiers comme ça suivent le conteur, et donc on est vraiment là-dedans avec le bruit des oiseaux, on est au milieu des bois, avec tous les bruits, avec toutes les lumières, avec la lanterne, et on est là-dedans, dans ce conte, cet imaginaire, et donc l'endroit sert l'histoire.
Ouais, excellent. On a envie d'y être avec ces loups qui... Il y a des vrais loups
Non, c'est des vrais loups.
Excellent.
Des vrais loups qui sont à côté de nous, et qui marchent, qui nous suivent, il y a une barrière qui nous sépare, bien sûr.
Là, on
mais
est dans
c'est
le
un vrai parc aux loups.
Personne ne sait si,
c'est
la vérité.
Et je vous laisse regarder le parc aux loups en Creuse, et c'est très joli et très, très magique comme endroit.
Excellent. Ok. Est-ce qu'il y a dans le conte, est-ce qu'il y a des petites techniques, tu vois, genre des tricks à connaître? Bon, déjà, je me rappelle, pareil, c'est quelques soirées contes que j'ai pu faire, où il y avait des gimmicks qui revenaient. Yécric, yécrac. Genre, il y a un conteur qui commençait tout le temps avec ça. Yécric, yécrac. Et puis l'histoire se passait. Il racontait ce qu'il avait raconté. Et il refinissait à la fin par yécric. Et là, le public répondait yécrac.
C'est la réincorporation. Ça marche très bien. Généralement, pour garder un public attentif et concentré, il faut réincorporer. Soit par des mots, soit par des gestes, mais souvent, ils peuvent revenir dans l'histoire quand ils ont un peu décroché à un moment donné. Souvent, c'est « j'ai pris le fusil et j'ai fait cric cric, faites comme moi !» Et j'ai fait cric cric. Et après, plus tard, c'est « j'ai pris mon fusil et j'ai fait... » Et le regard appuyé, ils vont faire cric cric. Mm-hmm. Et on garde les personnes à l'intérieur, ça les fait sourire. On garde le côté sympathique au conte et on les maintient dedans. C'est une technique qui marche très bien. Après, j'ai envie de dire l'importance du silence. Parce que un conte, sans pour autant partir dans l'horreur ou dans l'effrayant, mais les silences sont très importants. Parce que les silences, même pour l'éloquence, servent aussi à ce que un ou deux qui ont commencé à penser à autre chose, eh bien, reviennent dans l'histoire. On garde l'intensité, le moment qui est plus intense, avant de reprendre l'histoire. Donc du silence, et surtout, ça paraît un peu classique, mais pourtant c'est la base de tout, prenez des vraies histoires qui vous plaisent vraiment.
Une histoire qui est vraiment raconter. Sur le silence une seconde. Vraiment, moi, j'ai ces souvenirs en classe où je dessinais, où je faisais autre chose qu'écouter le cours, et la prof qui parlait en fond avec une voix monotone qui était là, donc qui me berçait un peu. Et à un moment, elle se taisait. Et là, t'es obligé de regarder ce qui se passe. Tu dis, putain, je vais me faire engueuler. Il y a un truc, quoi. En fait, il y avait eu un non-événement du fait qu'il se passait plus rien. Et elle faisait ça. Une fois, j'en avais parlé. Et ben, elle dit, ouais, en fait, je fais ça pour récupérer ceux qui, comme
toi, raccrocher sont en train de dessiner, tous ceux qui partent sur autre chose. C'est un classique en éloquence aussi. On arrête de parler régulièrement pour que tout le monde revienne avec nous et on continue.
Ouais, ça crée une rupture de rythme.
On a tous vécu ça.
On revient, quoi.
Tous vécu ce moment un peu où on a l'impression qu'on a regardé nous alors qu'on est peut-être 5 ou 6 à avoir décroché. Mais tout le monde revient sur l'instant et on reprend l'histoire.
Excellent.
Donc, c'est une technique qui est moins violente que d'appeler quelqu'un. Juste, on arrête de parler, 2 secondes, et tout le monde va revenir dans l'histoire sans cibler quelqu'un.
Yes. T'allais dire quoi du coup là sur choisir une histoire qui...
Oui, et aussi le conte vraiment... moi j'aime beaucoup les contes qui ont rapport avec le fantastique, avec le médiéval, avec les créatures. Et on dit souvent dans les contes...
Ça prenez... c'est ton côté grande gargouille.
Oui. Dites-moi, prenez une histoire qui vous plaît en fait. On a tous des histoires, des contes, des styles qui nous plaisent, qui nous ont plu à une époque. Et quand on aime une histoire, quand on aime la raconter, il y aura autre chose dans votre parole. Il y aura autre chose, il y aura un sourire, il y aura une vraie envie qui va s'écouter. C'est évident. Quand quelqu'un aime son histoire, ça s'écoute vraiment et on a envie de l'écouter aussi.
Ouais, c'est clair.
Ne prenez jamais une histoire qui vous plaît même à moitié. Ça ne marchera pas, c'est sûr. Même un très bon conteur, ça ne marchera pas. Il faut que ça vous plaise vraiment, que ça vous fasse rire en l'écoutant et en la racontant. Et là, ça va prendre tout de suite. Quand on aime son histoire... ça marche forcément.
Ok. Les grands contes de... J'imagine, il y a des grands contes, il y a des grandes œuvres de contes. Bon, j'ai deux questions, en fait. Deux remarques, questions, je ne sais pas trop. Star Wars, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est des contes ?
Alors, il y a le voyage du héros.
Ouais.
La technique de Thompson. Beaucoup d'histoires en sont inspirées. Finalement, il y a aussi un exercice, d'ailleurs, un autre exercice encore qu'on peut raconter aux personnes. Prenez un film, une série, n'importe quoi. Transformez-le en conte. Breaking Bad. Il était une fois un prof de chimie qui est malade. Sauf qu'il ne veut pas mourir en laissant sa famille sans le sou, alors il commence, avec un élève, à créer de la drogue. Sauf qu'au fur et à mesure, il entend dans la péripétie, dans le reste. Tout peut devenir un conte. C'est une histoire finalement. Juste à nous de la conter avec une envie de partager ça aux personnes. Tout ce qui a été créé dans le cinéma ou dans la bande dessinée ou dans les séries, c'est un conte à la base.
Il faut quand même qu'il y ait à la fin, tu disais, une morale.
Alors,
est-ce que c'est une particularité du conte ?
Alors, une morale, c'est pour les fables. Un conte, différencier un conte et une fable, c'est la morale.
Okay.
Un conte, pas forcément de morale. Une fable, normalement, a une morale. Et aussi, normalement, il y a des rimes. Une fable, c'est rimé. Il y a une morale à la fin. Et ça parle souvent, la fable, quand même, d'animaux, de légumes. De créatures, on est rarement sur un domaine moderne, classique, plutôt sur un univers plutôt fantastique où les animaux, les légumes parlent, comme les pierres, et une morale qui est souvent proche de l'amour, l'amitié, le respect de l'autre, la famille. Ce sont des paroles qui sont assez proches de ceux des enfants.
Bon, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, c'est des contes ou c'est pas des contes ?
Ça peut en être un aisément. De toute façon, tout le monde fantastique, c'est facile de le rendre en compte. Et même une comédie romantique...
Mais est-ce que ça rentre dans la définition du conte ?
Ça le rend si on respecte les 5 parties. Okay. Rappelez-vous tous, on a tous vécu ça à l'école primaire. Situation initiale, on présente le héros. Élément perturbateur. Un élément vient briser la monotonie du début. Après, on a les péripéties, la plus longue des parties. Après, la résolution, on résout l'enjeu de départ. Et enfin, situation finale, le retour à l'ordinaire. Finalement, 5 parties classiques des contes. Si on gère les 5 parties, ça sera un conte.
Le voyage du héros
de Thompson.
Ouais. Alors moi j'avais Vogler en tête, mais...
Ah moi j'ai Thompson. À la base c'est les 12 étapes normalement, jusqu'à 12, même jusqu'à 21, mais on les a limitées. Bah, le Seigneur des Anneaux, on peut le monter jusqu'à 16 par partie, ça dépend. Mais moi j'avais Thompson.
Ouais bon, on vérifiera, c'est pas très important. Ok, est-ce que dans tous les contes que t'as pu découvrir, rencontrer, il y en a un qui t'a particulièrement plu, et puis la question qui va venir juste après ou... Est-ce qu'il y en a un que tu as particulièrement envie de nous raconter ? Ou de nous conter, du coup, plutôt ?
Beaucoup de contes m'ont marqué. Après, je suis assez attaché par le théâtre, par mon expérience en improvisation, par la partie plus sombre. Je m'intéresse souvent aux méchants, aux monstres, à la créature qui est souvent l'antagoniste, qui est dans l'histoire pourtant primordiale, sans lui il n'y aurait pas d'histoire, et souvent qui n'est pas assez travaillé. Souvent j'ai remarqué que les méchants, les monstres, les secondaires apportent encore plus à l'histoire. Et souvent j'aime les histoires qui donnent plus de place, entre guillemets, aux méchants, entre guillemets, à la personne, pour comprendre plus pourquoi elle est ici. Pour vous dire Batman, par exemple, Batman, son succès vient des méchants, pas de Batman. Le fait qu'il ait autant eu du succès, c'est parce que les méchants étaient très construits, travaillés. Et comme il y avait un vrai intérêt pour eux, et c'est pas juste, pardon, mais le gros connard qui veut tout tuer sans aucune raison, on s'en moque qu'il crève ou non. Mais quand il y a un méchant qui a une histoire, des raisons d'être méchant, un passif s'attache à lui, là on a envie d'en savoir plus. Et là ça prend.
Pour moi, Batman marchait beaucoup aussi parce que le personnage même de Batman est pas si bon que ça.
Ce n'est pas
On
un
sent
prince
qu'il
blanc,
alors,
effectivement.
il est très limite, quoi.
C'est ça. Mais ce n'est pas suffisant. Et vraiment, le fait que les méchants, le Joker, l'épouvantail, beaucoup ont une vraie histoire hyper touchante, comme Mr. Freeze, un ancien scientifique déchu qui, pour sauver sa femme, braque des banques juste pour la sauver, parce qu'elle est en danger de mort et il fera tout pour elle, c'est hyper romantique en soi. Mais il tue des gens à la pelle, mais pour la sauver, car il fera tout pour elle. Ou l'épouvantail qui a une histoire par rapport à la peur. Tous sont des humains normaux qui, à un moment donné, sont
Basculer.
partis de l'autre côté. Mais pour une raison souvent qui est assez logique. Et donc ça les rend touchants, ça les
Ouais,
rend
dans l'histoire de Batman, il y a un truc en
intéressants.
fait qui fait que les héros et les anti-héros sont très proches parce qu'ils sont dans ce truc-là de
Extrêmement liés,
bascule.
tout à fait. Tous, à tous les moments, peuvent basculer, comme
Bon,
Batman.
on arrive à la fin. Est-ce que tu veux prendre 2 minutes, peut-être plus ou moins 2 minutes, pour nous conter un truc que tu aimerais.
Oui, je veux bien. C'est un conte que j'ai écrit il y a quelques temps et je vais l'improviser devant vous avec ce que je me rappelle de ce que j'ai pu écrire.
Ok, allez, on te laisse 3 secondes tranquille pour que tu te mettes dedans et on est tout ouïe.
Il était une fois trois frères, trois princes. Le premier était un grand guerrier. L'aîné, le guerrier qui portait haut les armes du royaume. Il était respecté et invaincu dans le royaume entier. Le second frère était un grand magicien, respecté, une puissance de sort incroyable, et il était le chef des magistriums du royaume. Troisième frère, le cadet, par contre, n'était pas magicien ni un guerrier, il était un poète et un musicien. Personne ne le respectait, il restait à conter des poésies, à jouer de la musique dans sa chambre. Son père lui-même le prenait pour un faible, car sans puissance, il n'y a pas de respect. Un jour, un coursier rentre voir le roi. Il s'agenouille devant le trône et dit: mon roi, l'armée ennemie se rapproche. Ils sont nombreux et ils veulent tout ravager. Le roi fit mander son premier fils, le guerrier, et lui dit: mon fils, tu es un grand guerrier, va les combattre et reviens-nous. Et le premier des frères alla à leur rencontre. Des jours et des jours passèrent avec des embuscades, des pièges. Il fit de nombreux morts et l'armée partit en déroute. Le prince revint au royaume victorieux, et 3 jours de fête s'en suivirent. Et toujours, le royaume était en paix. Quand, 3 mois plus tard, un coursier vient au roi et dit: mon roi, un dragon gigantesque est apparu. Au royaume, il brûle les fermes et les champs. Qu'allons-nous faire, mon roi? Le roi fit mander son second fils, le magicien, et lui dit: va le combattre, mon fils. Tes sorts sont si puissants, personne ne te résistera. Et alors, 3 jours de combat s'en suivirent, d'échanges de sorts, mais ils étaient à égalité. Aucun ne prenait l'avantage. Alors le magicien était derrière une pierre, il n'avait plus beaucoup de magie en lui, et le dragon s'exclamait de la couardise de l'humain qui restait caché face à lui, et l'humain eut une idée. Il se dit: je vais créer un double de moi, purement constitué de magie, et l'envoyer face à lui. Il s'exclama: dragon! Je suis fini, j'ai perdu. Je viens face à toi et tue-moi d'un coup, s'il te plaît, avec la plus grosse de tes boules de feu. Par respect pour moi, pour ce que j'ai fait. Le dragon accepta et le double de magie fut envoyé. Le dragon envoya
tout ce qu'il avait d'énergie sur le double et le désintégra et retomba au sol très fatigué. Alors le magicien sortit et envoya une décharge de magie et tua le dragon d'un coup. Il revint au royaume et 3 jours de fête s'en suivirent et toujours le royaume était en paix. Tellement en paix que un jour un vieil homme sombre vint à la cour des délations du roi et lui dit « Mon roi, je viens pour une demande. Le royaume ne jure que par la force et par la puissance, mais le royaume va droit au mur. Il faut arrêter cela, arrêter la force des armes pour revenir à l'essence même de l'humain, le contact à l'autre, la tendresse, la douceur. » Le roi rigola, lui dit « Mettez ce vieux fou dehors, je n'ai de cesse des vieux devins idiots. » Et l'homme lui dit « Vous avez tort, les vieilles personnes doivent être traitées avec respect. » Et il s'en alla et il vit oublier. Sauf que 3 mois plus tard, la maladie commença à arriver. Des dizaines puis des centaines de paysans commençaient à mourir. Le roi fit mander ses médecins pour soigner les personnes, mais rien n'y faisait. Les gens mouraient, mouraient, mouraient encore. Alors il fit mander son deuxième fils, le magicien, pour lui dire « Mais qu'est-ce qu'il se passe, mon fils ? Mais je ne sais pas, père. La maladie tue tout le monde, on ne sait pas quoi faire. » Et alors, il repensa à ce vieil homme. Un magicien noir, sûrement. Alors il fit mander son premier fils, le guerrier, et lui dit « Retrouve-le ! Va avec l'armée et ramène-le-moi !» Le prince partit avec l'armée, mais 3 jours s'en suivirent et aucune nouvelle. Et les gens continuaient de mourir autour de lui, alors il fit mander le second fils, le magicien, lui dit « Mon fils, ton frère n'est pas revenu, prends avec toi les magiciens et retrouve-le-moi » Et le prince partit avec tous les magiciens du royaume et 3 jours s'en suivirent et aucune nouvelle. Le roi était là, seul, sur le trône, désespéré. Aucun garde n'était là, plus personne. Alors le troisième fils vint dans la salle du trône et dit à son père « Père, moi, je pourrais peut-être... » « Non ! Non ! Que vas-tu faire, toi, avec une harpe ou un livre de poésie, là où tes frères, avec des armes, des haches et des sorts, n'ont rien pu faire ? Tu ne seras rien. Tu n'es rien. File. Tu es la honte de ce royaume. » Alors le fils va dans sa chambre, prit sa harpe et ses livres de poésie et suivait la piste et partit à la rencontre des disparus. Il marchait durant des jours et des jours à travers les forêts, les plaines, les montagnes. Et enfin, à un moment donné, arriva sur une plaine gigantesque. Il y avait un manoir géant noir devant lui. Et alors, ébloui par l'immensité du lieu, une voix l'interrompit. « Encore un autre guerrier venu me combattre !» Il ne comprendra rien, ce roi, décidément. Le fils était terrorisé. Il ne savait que faire, alors il ferma les yeux, craignant la mort toute proche, sortit sa harpe et commença à jouer, en chantant, durant plusieurs minutes, craignant qu'à tout instant, un sort, une flèche, un coup de hache le tuerait. Mais rien ne se passait. Il jouait encore, craignant d'ouvrir les yeux, mais rien ne se passait. Et à un moment, les doigts commençaient à faire mal sur les cordes de la harpe, alors il arrêta, ouvrit les yeux. Il n'y avait plus de manoir, plus d'hommes. Mais à ses pieds, il y avait tous les corps de l'armée, des magiciens. Ses frères aussi étaient là, morts. Il ne savait que faire et il vit alors un livre noir, qui était l'endroit exact du manoir. Il le prit dans ses mains, il l'ouvrit, il y avait seulement une page, avec quelques mots. Il était écrit « Le jour où les hommes ne penseront plus qu'à se battre, c'est à ce moment que l'humain
ne sera plus rien. L'humain doit retrouver ce qu'il est. La culture, l'art, la parole et l'amour des autres refera de lui ce qu'il a toujours été, un être parfait. Alors, il prit le livre avec lui, revint au royaume, le partagea à son père, et depuis ce jour, la culture, la fête, l'art furent de mise et mis au même rang, voire plus, que les armes et la force. Et depuis ce jour, le royaume fut en paix.
Merci beaucoup, Johan. Un conte peut-être un peu actuel, hein, avec la question de la place des arts et de la culture dans un monde parfois qui cherche surtout à user du poing et de l'épée. Et ben, merci beaucoup pour cette demi-heure ensemble. On se reverra bientôt pour peut-être d'autres aventures comme ça de Café Loquence.
Avec plaisir.
Discussion autour d'un café. On vous invite tous et toutes à suivre ces petits podcasts. Et on vous dit à très bientôt. D'ici là, lâchez rien et au revoir.